Chapitre 7e. Le roi de Tanis arrive. Sa fille et le taureau vont être sacrifiés. Des tourbillons de poussière s'élevaient du midi au nord. On entendait le bruit des tambours, des trompettes, de fives, des psaltérions, des cithares, des sambuques. Plusieurs escadrons avec plusieurs bataillons s'avançaient, et Amasis, roi de Tanis, était à leur tête sur un cheval caparaçonné d'une housse écarlate brochée d'or, et les héros criaient « Qu'on prenne le taureau blanc, qu'on le lie, qu'on le jette dans le Nil, et qu'on le donne à manger aux poissons de Jonas, car le roi monseigneur, qui est juste, veut se venger du taureau blanc qui a ensorcelé sa fille. » Le bon vieillard Mambrès fit plus de réflexion que jamais. Il vit bien que le malin corbeau était allé tout dire au roi et que la princesse courait grand risque d'avoir le cou coupé. Il dit au serpent « Mon cher ami, allez vite consoler la belle Amaside, ma nourrissonne. Dites-lui qu'elle ne craigne rien. Quelque chose qui arrive et faites-lui des contes pour charmer son inquiétude, car les contes amusent toujours les filles et ce n'est que par des contes qu'on réussit dans le monde. » Puis il se prosterna devant Amasis, roi de Tanis, et lui dit « Ô roi, vivez à jamais. Le taureau blanc doit être sacrifié, car votre majesté a toujours raison. Mais le maître des choses a dit « Ce taureau ne doit être mangé par le poisson de Jonas qu'après que Memphis sera trouvé un dieu pour mettre à la place de son dieu qui est mort. Alors vous serez vengé et votre fille sera exorcisée, car elle est possédée. Vous avez trop de pitié pour ne pas obéir aux ordres du maître des choses. » Amasis, roi de Tanis, resta tout pensif. Puis il dit « Le bœuf Apis est mort. Dieu veuille avoir son âme. Qu'en croyez-vous qu'on aura trouvé un autre bœuf pour régner sur la féconde Égypte ?»« Oh, sire, dit Mambrès, je ne vous demande que 8 jours. » Le roi, qui était très dévot, dit « Je les accorde, et je veux rester ici 8 jours. Après quoi, je sacrifierai le séducteur de ma fille. » Et il fit venir ses tantes, ses cuisiniers, ses musiciens, et resta 8 jours en ce lieu, comme il est dit dans Manéthon. La vieille était au désespoir de voir que le taureau qu'elle avait en garde n'avait plus que 8 jours à vivre. Elle faisait apparaître toutes les nuits des ombres au roi pour le détourner de sa cruelle résolution, mais le roi ne se souvenait plus le matin des ombres qu'il avait vues la nuit, de même que Nabuchodonosor avait oublié ses songes. Chapitre 8e. Comment le serpent fit des contes à la princesse pour la consoler. Cependant, le serpent contait les histoires à la belle Anacide pour calmer ses douleurs. Il lui disait comment il avait guéri autrefois tout un peuple de la morsure de certains petits serpents en se montrant seulement au bout d'un bâton. Il lui apprenait les conquêtes d'un héros qui fit un si beau contraste avec Amphion, architecte de Thèbes en Béotie. Cet Amphion faisait venir des pierres de taille au son du violon. Un rigodon et un menuet lui suffisaient pour bâtir une ville, mais l'autre les détruisait au son du cornet à bouquin. Il fit pendre 31 rois très puissants dans un canon, dans un canton. Il fit pendre 31 rois très puissants dans un canton de 4 lieues de long et de large. Il fit pleuvoir de grosses pierres du haut du ciel sur un bataillon d'ennemis fuyant devant lui, et les ayant ainsi exterminés, il arrêta le soleil et la lune en plein midi pour les exterminer encore entre Gabaon et Aïeion sur le chemin de Bethoron, à l'exemple de Bacchus, qui avait arrêté le soleil et la lune dans son voyage aux Indes. La prudence que tout serpent doit avoir ne lui permit pas de parler à la belle Amasite du puissant bâtard Jephté qui coupa le cou à sa fille parce qu'il avait gagné une bataille. Il aurait jeté trop de terreur dans le cœur de la belle princesse. Mais il lui conta les aventures du grand Samson, qui tuait 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, qui attachait ensemble 300 renards par la queue, et qui tomba dans les filets d'une fille moins belle, moins tendre et moins fidèle que la charmante Amazide. Il lui racontait les amours malheureux de Sichène et de l'agréable Dina, âgée de 6 ans, et les amours plus fortunés de Bose et de Ruth, ceux de Judas avec sa brue Tamar, ceux de Lot avec ses 2 filles qui ne voulaient pas que le monde finît, ceux d'Abraham et de Jacob avec leurs servantes, ceux de Ruben avec sa mère, ceux de David et de Bethsabée, ceux du grand roi Salomon, enfin, tout ce qui pouvait dissiper la douleur d'une belle princesse. Chapitre 9e. Comment le serpent ne la consola pas. « Tous ces contes-là m'ennuient, » répondit la belle Amazide, qui avait de l'esprit et du goût. « Ils ne sont bons que pour être commentés chez les Irlandais, par ce fou d'Abbadi, ou chez les Welches, par ce phrasien d'Outeville. Les contes qu'on pouvait faire à la quadrisaïeule de la quadrisaïeule de ma grand-mère ne sont plus bons pour moi, qui a été élevé par le sage Mambresse, et qui a lu l'entendement humain du philosophe égyptien nommé Locke et la matrone d'Éphèse. Je veux qu'un conte soit fondé sur la vraisemblance et qu'il ne ressemble pas toujours à un rêve. Je désire qu'il n'ait rien de trivial ni d'extravagant. Je voudrais surtout que, sous le voile de la fable, il laissât entrevoir aux yeux exercés quelques vérités fines qui échappent au vulgaire. Je suis lasse du soleil et de la lune dont une vieille dispose à son gré, et des montagnes qui dansent, et des fleuves qui remontent à leur source, et des morts qui ressuscitent, mais surtout quand ces fadaises sont écrites d'un style empoulé et inintelligible. Cela me dégoûte horriblement. Vous sentez qu'une fille qui craint de voir avaler son amant par un gros poisson et d'avoir elle-même le cou coupé par son propre père a besoin d'être amusée, mais tâchez de m'amuser selon mon goût. Vous m'imposez là une tâche bien difficile, répondit le serpent. J'aurais pu autrefois vous faire passer quelques quarts d'heure assez agréable, mais j'ai perdu depuis quelque temps l'imagination et la mémoire. Hélas, où est le temps où j'amusais les filles? Voyons cependant si je pourrais me souvenir de quelques contes moraux pour vous plaire. Ah, il y a 25 000 ans, que le roi Gnaofe et la reine Batra étaient sur le trône de Thèbes aux 100 portes. Le roi Gnaofe était fort beau, et la reine Batra encore plus belle, mais il ne pouvait avoir d'enfants. Le roi Gnaof proposa un prix pour celui qui enseignerait la meilleure méthode de perpétuer la race royale. La faculté de médecine et l'académie de chirurgie firent d'excellents traités sur cette question importante. Pas un ne réussit. On envoya la reine aux eaux. Elle fit des neuvaines, elle donna beaucoup d'argent au temple de Jupiter Ammon, dont vient le sel ammoniaque. Tout fut inutile. Enfin, un jeune prêtre de 25 ans se présenta au roi et lui dit « Sire, je crois savoir faire la conjuration qui opère ce que votre majesté désire avec tant d'ardeur. Il faut que je parle en secret à l'oreille de madame votre femme, mais si elle ne devient féconde, je consens d'être pendu. Oh, « J'accepte votre proposition, » dit le roi Gnaof. On ne laissa la reine et le prêtre qu'un quart d'heure ensemble. La reine devint grosse et le roi voulut faire pendre le prêtre. « Mon Dieu, » dit la princesse, « je vois où cela mène. Ce conte est trop commun. Je vous dirais même qu'il alarme ma pudeur. Contez-moi quelques fables bien vraies, avérées, bien morales, dont je n'ai jamais entendu parler. » pour achever de me former l'esprit et le cœur, comme me dit le professeur égyptien Lin Ro. Ah, en voici une, madame, dit le beau serpent, qui est des plus authentiques. Il y avait trois prophètes, tous trois également ambitieux et dégoûtés de leur état. Leur folie était de vouloir être roi, car il n'y a qu'un pas du rang de prophète à celui de monarque, et l'homme aspire toujours à monter tous les degrés de l'échelle de la fortune. D'ailleurs, leur goût, leur plaisir étaient absolument différents. Le premier prêchait admirablement ses frères assemblés, qui lui battaient des mains. Le second était fou de la musique, et le troisième aimait passionnément les filles. L'ange Ithuriel vint se présenter à eux, un jour qu'ils étaient à table et qu'ils s'entretenaient des douceurs de la royauté. Le maître des choses, leur dit l'ange, m'envoie vers vous pour récompenser votre vertu. Non seulement vous serez roi, mais vous satisferez continuellement vos passions dominantes. Vous, premier prophète, je vous fais roi d'Égypte, et vous tiendrez toujours votre conseil qui applaudira à votre éloquence et à votre sagesse. Vous, second prophète, vous régnerez sur la Perse et vous entendrez continuellement une musique divine. Et vous, troisième prophète, je vous fais roi de l'Inde et je vous donne une maîtresse charmante qui ne vous quittera jamais. Celui qui eut l'Égypte en partage commença par assembler son conseil privé qui n'était composé que de 200 sages. Il leur fit, selon l'étiquette, un long discours qui fut très applaudi et le monarque goûta la douce satisfaction de s'enivrer de louanges qui n'étaient corrompues par aucune flatterie. Le conseil des affaires étrangères succéda au conseil privé. Il fut beaucoup plus nombreux, et un nouveau discours reçut encore plus d'éloges. Il en fut de même des autres conseils. Il n'y eut pas un moment de relâche au plaisir et à la gloire du prophète roi d'Égypte. Le bruit de son éloquence remplit toute la terre. Le prophète roi de Perse commença par se faire donner à un opéra italien dont les chœurs étaient chantés par 1500 châtrés. Leur voix lui remuait l'âme jusqu'à la moelle des os, où elle réside. À cet opéra en succédait un autre, et à ce second, un troisième, sans interruption. Le roi de l'Inde, lui, s'enferma avec sa maîtresse et goûta une volupté parfaite avec elle. Il regardait comme le souverain bonheur la nécessité de la caresser toujours, et il plaignait le triste sort de ses deux confrères, dont l'un était réduit à toujours tenir son conseil et l'autre à être toujours à l'opéra. Chacun d'eux, au bout de quelques jours, entendit par la fenêtre des bûcherons qui sortaient d'un cabaret pour aller couper du bois dans la forêt voisine et qui tenaient sous le bras leurs douces amies dont ils pouvaient changer à volonté. Nos rois prièrent Ithuriel de vouloir bien intercéder pour eux auprès du maître des choses et de les faire bûcherons. « Je ne sais pas, » interrompit la tendre Amasside, et le maître des choses leur accorda leur requête, et je ne m'en soucie guère, mais je sais bien que je ne demanderais rien à personne si j'étais enfermé tête à tête avec mon amant, avec mon cher Nabuchodonosor. Les voûtes du palais retentirent de ce grand nom. D'abord Amasside n'avait prononcé que Na, ensuite Nabu, puis Nabucco. Mais à la fin, la passion l'emporta. Elle prononça le nom fatal tout entier, malgré le serment qu'elle avait fait au roi son père. Toutes les dames du palais répétèrent Nabuchodonosor, et le malin corbeau ne manqua pas d'en avertir le roi. Le visage d'Amasis, roi de Tanis, fut troublé parce que son cœur était plein de troubles. Et voilà comment le serpent, qui était le plus prudent et le plus subtil des animaux, faisait toujours du mal aux femmes. en croyant bien faire. Or, Amasis, en courroux, envoya sur le champ chercher sa fille Anacide par 12 de ses alguazils, qui sont toujours prêts à exécuter toutes les barbaries que le roi commande, et qui disent, pour raison, « Nous sommes payés pour cela !» Chapitre 10e. Comment on voulut couper le cou à la princesse, et comment on ne le lui coupa point. Dès que la princesse fut arrivée toute tremblante au camp du roi son père, il lui dit « Ma fille, vous savez qu'on fait mourir toutes les princesses qui désobéissent au roi leur père, sans quoi un royaume ne pourrait être bien gouverné. Je vous avais défendu de proférer le nom de votre amant Nabucodonosor, mon ennemi mortel qui m'avait détrôné il y a bientôt 7 ans et qui a disparu de la terre. Vous avez choisi à sa place un taureau blanc et vous avez crié Nabucodonosor. Il est juste que je vous coupe le cou. » La princesse lui répondit, « Mon père, soit fait selon votre volonté, mais donnez-moi du temps pour pleurer ma virginité. »« Cela est juste, dit le roi Amasis, c'est une loi établie chez tous les princes éclairés et prudents. Je vous donne toute la journée pour pleurer votre virginité, puisque vous dites que vous l'avez. » Demain, qui est le 8e jour de mon campement, je ferai avaler le taureau blanc par le poisson et je vous couperai le cou à 8 heures du matin. La belle Amaside alla donc pleurer le long du Nil avec ses dames du palais, tout ce qui lui restait de virginité. Le sage Mandresse réfléchissait à côté d'elle et comptait les heures et les moments. « Eh bien, mon cher Mandresse, lui dit-elle, vous avez changé les eaux du Nil en sang, selon la coutume, et vous ne pouvez changer le cœur d'Amasis, mon père, roi de Tanis. Vous souffrirez qu'il me coupe le cou demain, à 8 heures du matin ?»« Cela dépendra, répondit en réfléchissant Mambrès, de la diligence de mes courriers. » Le lendemain, dès que les ombres des obélisques et des pyramides marquèrent sur la terre la 8e heure du jour, on lia le taureau blanc pour le jeter au poisson de Jonas, et on apporta au roi son grand sabre. « Hélas, hélas !» disait Nabucodonosor dans le fond de son cœur. « Moi, le roi, je suis bœuf depuis près de 7 ans, et à peine j'ai retrouvé ma maîtresse qu'on me fait manger par un poisson. » Jamais le sage Mambrès n'avait fait des réflexions si profondes. Il était absorbé dans ses tristes pensées lorsqu'il vit de loin tout ce qu'il attendait. Une foule innombrable approchait. Les 3 figures d'Isis, d'Osiris et d'Horus, unies ensemble, avançaient, portées sur un brancard d'or et de pierreries par 100 sénateurs de Memphis, et précédées de 100 filles jouant du sistre sacré. 4000 prêtres, la tête rasée et couronnée de fleurs, étaient montés chacun sur un hippopotame. Plus loin, paraissaient dans la même pompe la brebis de Thèbes, le chien de Bubaste, le chat de Phébé, le crocodile d'Arsinoé, le bouc de Mendès et tous les dieux inférieurs de l'Égypte qui venaient rendre hommage au grand bœuf, au grand dieu Apis, aussi puissant qu'Isis, Osiris et Horus réunis ensemble. Au milieu de tous ces demi-dieux, 40 prêtres portaient une énorme corbeille remplie d'oignons sacrés qui n'étaient pas tout à fait des dieux, mais qui leur ressemblaient beaucoup. Aux 2 côtés de cette file de dieux, suivie d'un peuple innombrable, marchaient 40 000 guerriers, le casque en tête, le cimeterre sur la cuisse gauche, le carquois sur l'épaule et l'arc à la main. Tous les prêtres chantaient en chœur avec une harmonie qui élevait l'âme et qui l'attendrissait. « Notre bœuf est au tombeau, nous rendrons un plus beau. » et à chaque pause, on entendait résonner les sistres, les castagnettes, les tambourins de basque, les psaltérions, les cornemuses, les harpes et les sambus. Chapitre 11e. Comment la princesse épousa son bœuf. Amasis, roi de Tanis, surpris de ce spectacle, ne coupa point le cou à sa fille. Il remit son cimetière dans son fourreau. Mambrès lui dit « Grand roi, l'ordre des choses est changé. Il faut que votre majesté donne l'exemple. Ô roi, déliez vous-même promptement le taureau blanc et soyez le premier à l'adorer. » Amasis obéit et se prosterna avec tout son peuple. Le grand prêtre de Memphis présenta au nouveau bœuf Apis la première poignée de foin. La princesse Amaside attachait à ses belles cornes les festons de roses, d'anémones, de renoncules, de tulipes et d'œillets et d'hyacinthes. Elle prenait la liberté de le baiser, mais avec un profond respect. Les prêtres jonchaient de palmes et de fleurs le chemin par lequel on le conduisait à Memphis. Et le sage Mambrès, faisant toujours ses réflexions, disait tout bas à son ami le serpent « Daniel a changé cet homme en bœuf, et j'ai changé ce bœuf en Dieu. » On s'en retournait à Memphis dans le même ordre. Le roi de Tanis, tout confus, suivait la marche. Mambrès, l'air serein et recueilli, était à son côté. La vieille suivait tout émerveillée. Elle était accompagnée du serpent, du chien, de l'ânesse, du corbeau, de la colombe et du bouc émissaire. Le grand poisson remontait le Nil. Daniel, Ézéchiel et Jérémie, transformés en pies, fermaient la marche. Quand on fut arrivé aux frontières du royaume, qui n'était pas fort loin, le roi Amasis prit congé du bœuf Apis et dit à sa fille « Ma fille, retournons dans nos états, afin que je vous y coupe le cou, ainsi qu'il a été résolu dans mon cœur royal, parce que vous avez prononcé le nom de Nabuchodonosor, mon ennemi qui m'avait détrôné il y a 7 ans. Lorsqu'un père a juré de couper le cou à sa fille, il faut qu'il l'accomplisse en serment, sans quoi il est précipité pour jamais dans les enfers, et je ne veux pas me damner pour l'amour de vous. » La belle princesse répondit en ces mots au roi Amasis, « Mon cher père, allez couper le cou à qui vous voudrez, mais ce ne sera pas à moi. Je suis sur les terres d'Isis, d'Osiris, d'Horus et d'Apis. Je ne quitterai point mon beau taureau blanc. Je le baiserai tout le long du chemin, jusqu'à ce que j'aie vu son apothéose dans la grande écurie de la sainte ville de Memphis. C'est une faiblesse pardonnable à une fille bien née. » À peine eut-elle prononcé ces paroles que le bœuf Apis s'écria « Ma chère Amaside, je t'aimerai toute ma vie !» C'était pour la première fois qu'on avait entendu parler Apis en Égypte depuis 40 000 ans qu'on l'adorait. Le serpent et l'ânesse s'écrièrent « Les 7 années sont accomplies !» Et les 3 pies répétèrent « Les 7 années sont accomplies !» Tous les prêtres d'Égypte levèrent les mains au ciel. On vit tout d'un coup le dieu perdre ses 2 jambes de derrière, ses 2 jambes de devant se changèrent en 2 jambes humaines, 2 beaux bras charnus, musculeux et blancs sortirent de ses épaules, son mufle de taureau fit place au visage d'un héros charmant. Il redevint le plus bel homme de la terre et dit « J'aime mieux être l'amant d'Amasside que Dieu. Je suis Nabuchodonosor, roi des rois. » Cette nouvelle métamorphose étonna tout le monde, hors le réfléchissant Mambrès. Mais ce qui ne surprit personne, c'est que Nabuchodonosor épousa sur le champ la belle Amazigh en présence de cette grande assemblée. Il conserva le royaume de Tanis à son beau-père et fit de belles fondations pour l'ânesse, le serpent, le chien, la colombe et même pour le corbeau, les trois pies et le gros poisson, montrant à tout l'univers qu'il savait pardonner comme triompher. La vieille eut une grosse pension. Le bouc émissaire fut envoyé pour un jour dans le désert afin que tous les péchés passés fussent expiés. Après quoi, on lui donna 12 chèvres pour sa récompense. Le sage Mambrai se retourna dans son palais faire des réflexions. Nabucodonosor, après l'avoir embrassé, gouverna tranquillement le royaume de Memphis, celui de Babylone, de Damas, de Baalbek, de Tyr, la Syrie, l'Asie mineure, la Scythie, les contrées de Kiraz, de Mozok, du Tubal, de Madaï, de Gog, de Magog, de Javan, la Sogdiane, la Bactriane, les Indes et les îles. Les peuples de cette vaste monarchie criaient tous les matins « Vive le grand Nabucodonosor, roi des rois, qui n'est plus bœuf !» Et depuis, ce fut une coutume dans Babylone que toutes les fois que le souverain ayant été grossièrement trompé par ses satrapes ou par ses mages, ou par ses trésoriers, ou par ses femmes, reconnaissait enfin ses erreurs et corrigeait sa mauvaise conduite, tout le peuple criait à sa porte « Vive notre grand roi, qui n'est plus bœuf !»